Carnet de région.
Gard,
Aude,
Lozère,
Hérault,
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en langue de Croustillon.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Carnet de région. Au programme aujourd'hui, nous débuterons avec un reportage sur les maladies rares réalisé par Régine Acquier de Radio RCF Maglone. Puis nous irons du côté d'Alès pour la quatrième semaine Cévenol qui débute ce lundi 4 mars. Made in Midi, c'est le nom de ce nouveau projet d'un ambitieux skipper ayant participé au Vendée Globe. Son but, promouvoir les entreprises régionales autour du prochain Tour de France à la voile. Et puis le Salon de l'agriculture à Paris a décerné 2 médailles d'or à l'huilerie coopérative de Clermont-l'Hérault pour son huile d'olive et l'olive de bouche, la Luc. Nous y reviendrons avec Adrien Delgrange de Radio Pays d'Hérault. Soyez les bienvenus dans ce carnet de région. Jeudi, c'était la journée internationale des maladies rares. Une maladie rare touche moins d'une personne sur 2000 en moyenne. Dans leur ensemble, elles affectent 3 millions de personnes en France et près de 30 millions dans le monde. Tout le monde peut être concerné, même si les malades sont en majorité des enfants. Cette journée mobilise 60 pays autour du thème « Maladies rares sans frontières ». Philippe Ferrer, le président de l'Association française du syndrome de Lowe, nous parle de cette maladie ultra rare, génétique et héréditaire.
C'est une maladie c'est un syndrome qu'on appelle oculo-cérébro-rénal. C'est une maladie qui touche donc les yeux, le cerveau et les reins. Pour les yeux, c'est cataracte et glaucome bilatéral, généralement détecté à la naissance ou très peu de temps après. Les problèmes cérébraux sont plus ou moins importants selon les enfants, les garçons, puisque ce ne sont que des garçons qui sont atteints. Et les problèmes rénaux aussi vont être en fonction de la prise en charge de la maladie. Dans notre maladie, il y a un cas sur 500 000 individus, ce qui fait qu'on aurait à peu près estimé 100 à 120 cas en France.
Donc l'association que vous présidez, l'association Syndrome de Lowe, se mobilise autour du thème « Maladies rares sans frontières ». Elle participe à la création d'une fédération européenne de la maladie de Lowe. Pourquoi cette implication ?
Jusqu'à présent, la plupart des pays travaillaient avec leurs propres médecins, leurs propres conseils scientifiques. Et on s'est aperçu petit à petit, et je pense que l'arrivée d'Internet, qui est pour beaucoup, qui a permis des rapprochements beaucoup plus rapides et beaucoup plus importants, on s'est aperçu que d'autres pays travaillaient aussi sur la maladie. J'ai pu rencontrer à 2 reprises le président de l'association espagnole. Ils sont en train de monter un projet européen, et finalement on s'est dit pourquoi on ne travaillerait pas à 3 ou 4 associations.
Quels sont les pays qui sont rassemblés dans cette alliance ?
Eh bien, il y a donc l'Espagne qui apporte un projet européen. La France s'est joint à eux avec l'Italie, l'Angleterre et l'Allemagne. Voilà, il y a 5 pays pour le démarrage.
Quelle sera l'action de cette alliance ?
La première action, c'est déjà de se fédérer, c'est-à-dire qu'on est en train de créer, les Espagnols sont en train de créer les statuts de l'association qui va être déposée en Espagne. Et le principal objectif de l'association, c'est de travailler un projet de recherche commun qui s'appelle le Love Project Research. C'est un programme de recherche mis en place par l'université et l'hôpital de Barcelone. L'objectif, il est d'une part de récolter des informations individuelles sur les cas, sur les différents cas de malades, avec un questionnaire qui va être envoyé à toutes les familles de chaque association, donc traduit dans différentes langues. Ce questionnaire va faire l'objet d'une base de données qui sera accessible à des chercheurs et des médecins. L'objectif, c'est d'une part, comme vous venez de le dire, de rompre l'isolement, c'est-à-dire que les familles vont prendre conscience qu'elles ne sont pas toutes seules, qu'il y a d'autres familles qui sont dans le même cas. Et le deuxième objectif, c'est la collecte de ces informations qui va permettre, par recoupement, d'entrevoir des pistes de recherche auxquelles on n'aurait peut-être pas pensé. Je vous donne un exemple qui est cité par les Espagnols. Un enfant, dans cette maladie-là, il y a beaucoup de crises d'épilepsie. Ils se sont aperçus en Espagne, par exemple, que les enfants qui étaient épileptiques, quand on arrêtait de leur donner du lait de vache, qui contient du lactose, ça leur diminuait les crises d'épilepsie. Voilà, c'est un exemple de ce qu'on peut, de ce qui pourrait être trouvé comme recoupement entre pour cette maladie-là. Voilà.
Oui, donc cette alliance permettra de rompre l'isolement des familles et de développer finalement la solidarité et les échanges d'expériences.
Je pense que c'est primordial. À l'époque où on vit, on a les moyens techniques aujourd'hui qui nous permettent de faire ça. Les réseaux sociaux permettent des rapprochements très rapides, l'Internet et les réseaux sociaux. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, l'Union fait la force et c'est la meilleure façon d'avancer, c'est regrouper nos compétences, regrouper les informations pour aller plus vite et avancer plus vite sur la recherche et pourquoi pas la guérison de la maladie.
Un sujet de Régine Acquier pour RCF Maglone Hérault. C'est ce lundi 4 mars que débutera à Alès la 4e semaine Cévenol qui, une fois encore, s'attachera à faire revivre la période de la guerre des Camisards. L'édition 2013 permettra par un ensemble de manifestations gratuites d'offrir une vision d'ensemble de cet épisode majeur de l'histoire Cévenol de 1629 à 1715. L'ambition de la ville d'Alès est de faire de cette semaine, selon les termes du maire Max Roustan, une seconde feria en thème d'animation et de fréquentation publique, mais ceci dans le respect de l'histoire. Cette année encore, les spectacles historiques des 9 et 10 mars constitueront le point d'orgue de cette semaine. Et c'est une nouvelle association qui est chargée d'organiser et de mettre en scène ce week-end historique où se côtoient reconstitution de combat, défilés costumés, spectacles et jeux. L'association pour l'histoire vivante, bien qu'originaire de l'Île-de-France, s'est appropriée cette page de l'histoire Cévenol, comme nous l'explique son directeur Christophe Darguerre.
En fait, depuis 10 ans, on organise des manifestations historiques un petit peu partout en France et même à l'étranger, puisqu'on est actif en Belgique et en Allemagne. Et tout simplement, on est du Nord, donc on a commencé par organiser des manifestations historiques dans le Nord. Donc on s'occupe des fêtes médiévales de Bayeux, de Pontoise, de Loches, de Chinon. Et il y a 2 ans, on a gagné un appel d'offres pour la fête des Caritas de Béziers. Et c'est comme ça que les gens d'Alès nous ont connus. Ils sont venus à la fête de Béziers, ils ont entendu parler de nous, et puis on a répondu à leur appel d'offres, et puis c'est comme ça que ça s'est fait.
Vous connaissiez l'histoire de la guerre des Camisards avant de vous y intéresser donc professionnellement ?
Moi, je suis un passionné d'histoire, donc je connaissais quelques petites choses sur la guerre des Camisards. Ce n'était pas forcément ma période de prédilection, puisque moi, je viens plutôt du milieu médiéval. Ça nous a permis, nous, de sortir de l'organisation de manifestations historiques médiévales. On en voit beaucoup, on nous en demande beaucoup, nous, en tant qu'organisateurs. Donc, c'est pour ça qu'on voulait vraiment avoir cet appel d'offres, parce que ça nous permettait de travailler sur une période vraiment intéressante de l'histoire. En plus, la guerre des Camisards, ce n'est pas quelque chose qui arrive partout en France ou dans le monde, c'est vraiment très localisé. Donc, c'était vraiment intéressant et important pour nous de travailler sur ce projet.
Christophe Darguerre, quel était votre cahier des charges ?
Alors, cahier des charges, un cahier des charges effectivement très historique, très orienté historicité, puisqu'on doit travailler avec, ce qui est une très bonne chose, avec un comité d'éthique composé d'historiens et de spécialistes justement de la période. Donc ça, c'est bien, parce que pour nous, ça nous pousse à aller encore plus loin dans nos recherches historiques. Et au moins, on a quelque chose, on a un organisme qui valide un petit peu nos travaux et nos propositions. Donc là, le côté historicité est très important pour nous. Comme sur toutes nos manifestations, on a aussi un côté spectaculaire qui est important, c'est-à-dire c'est bien d'avoir de l'historicité, mais quand vous êtes dans un musée qui est très beau, très bien documenté, si c'est un musée qui ne vit pas, qui n'est pas un tout petit peu spectaculaire, c'est dommage. Le grand public demande de plus en plus du spectacle. Donc c'était à nous aussi de fournir du spectacle qui soit intéressant, qui ne soit pas anachronique et qui passe bien avec cette période-là. Et on a un côté aussi très ludique et interactif, où on veut que non seulement les gens apprennent, qu'ils regardent, mais aussi qu'ils participent. C'est-à-dire vraiment qu'ils soient acteurs de la manifestation, et que quand ils rentrent le soir de la manifestation, ils puissent se dire « j'ai appris à frapper une monnaie sous Louis XV, j'ai fait des jeux, on a fait une balade dans une calèche, on a tiré une chaise à porteur, etc. etc. » On a appris un pas de danse du début du XVIIIe siècle, etc.
Vous allez faire appel à la population alésienne et cévenole ?
Oui, tout à fait, sur les spectacles. Donc, nous avons rencontré les associations locales il y a quelques mois. Et en fait, il y a un certain nombre d'associations locales qui vont participer non seulement au défilé, puisqu'on fournit à peu près 300 costumes à des associations, aux gens de la mairie, mais aussi au grand public. Mais il y a aussi des associations qui vont vraiment participer en tant que figurants au spectacle. Et en particulier, on a deux des rôles principaux du spectacle. Je ne vais pas tout dévoiler, mais on a deux des rôles principaux du spectacle qui sont joués, des rôles qui vont vraiment revenir quasiment pendant tout le spectacle, qui sont joués par deux Alésiens, des personnes d'une association à Alès.
L'une des particularités de l'Association pour l'Histoire Vivante est de compter parmi ses organisateurs Fabien Muller, qui réunit la double fonction d'historien et de metteur en scène.
Fabien Muller, vous êtes historien et metteur en scène, ce qui est quand même assez inhabituel comme démarche. Qu'est-ce qu'il emporte ? L'historien dit quoi au metteur en scène ? Et le metteur en scène dit de temps en temps à l'historien, attends, là, ne soyons peut-être pas trop précis, sachons un peu violer l'histoire à condition de lui faire de beaux enfants ?
C'est un peu ça, en fait. C'est un peu ça. C'est vrai que le... quand j'écris un livre, eh bien, je m'attache à une réalité historique vraiment précise. Quand j'écris un spectacle, eh bien, des fois, il faut trouver le compromis. Dans le spectacle qu'il y aura cette année, pour vous en dévoiler un tout petit bout, à un moment donné, il y a des événements qui se chevauchent, mais sur 5 ans. Pour des questions de mise en scène, eh bien, on va avoir des petits flashs à différents endroits de la scène. On va avoir des petits flashs sur des personnages, tantôt à Versailles, tantôt à l'Est, tantôt en Suisse, parce que tous les événements sont reliés, mais sur une période de 5 années, et dans le spectacle, ça va apparaître en 20 secondes. Donc, forcément, on est obligé de faire des compromis avec une transigeance qui est réelle, c'est celle de respecter l'histoire. On ne peut pas faire dire n'importe quoi au personnage, on ne peut pas faire dire n'importe quoi aux événements. L'histoire, donc mon travail d'historien, prime quand même avant tout sur mon travail de metteur en scène. Je dirais que je mets ma casquette de metteur en scène pour arriver à harmoniser les événements de façon à ce que cela soit conforme à la vérité historique.
La 4e semaine Cévenol, c'est donc à Alès du 4 au 10 mars. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter le site www.semaine-cévenol.fr. Un reportage réalisé par Yves Defago de Radio Grille Ouverte.
Carnet de région, l'actualité en langue de Croussillon.
Au micro de Delta FM, Naïma Serve reçoit Quito de Pavan, skipper malheureux du dernier Vendée Globe. Il vient de lancer son nouveau projet Made in Midi pour promouvoir les entreprises régionales autour du prochain Tour de France à la voile 2013, avec comme objectif les impliquer dans un troisième Vendée Globe en 2016.
Il a sillonné tous les océans et mers du globe depuis 30 ans. Il a passé ses 8 dernières années à bord d'un voilier qu'on connaît bien ici au Gros du Roi, avec sa grosse vache rouge sur les voiles, groupe Belle. Concurrent malheureux du Vendée Globe cette année, nous recevons aujourd'hui Quito de Pavan, bonjour. Le Vendée Globe 2012-2013 s'est terminé un peu prématurément, c'est le moins que l'on puisse dire, mais malgré cela, que retirez-vous de cette expérience et de ces 4 ans de préparation ?
Le Vendée Globe, c'est un truc exceptionnel, et je crois que tous les marins qui partent traverser les océans mériteraient d'avoir cette ovation que nous font le public au moment du départ. C'est quelque chose d'incroyable, on ne connaît pas ça souvent. Au départ du Sable d'Olonne, il y avait, je pense qu'il y avait 300 000 personnes sur le port. Il n'y a pas d'événement sportif qui accueille autant de personnes, et c'est vrai que ça fait chaud au cœur, et je crois que même pour juste le départ, je crois que j'y retournerai volontiers dans 4 ans, je m'y prépare d'ailleurs.
On l'espère pour vous. En tout cas, le contrat se termine avec le groupe Bell. Il y a d'autres projets à l'avenir maintenant. Vous avez un projet que vous avez mis en place, Made in Midi.
Oui, alors c'est vrai qu'on a passé quelques années assez incroyables avec groupe Bell. Hein. J'ai eu une chance incroyable de tomber sur cette entreprise, sur les dirigeants de groupe Bell qui m'ont fait confiance. C'est vrai que ce projet a été une vraie réussite, pas tant au niveau sportif, parce que on a eu quand même pas mal de problèmes techniques avec ce bateau, mais au niveau de l'entreprise, des relations que j'ai eues avec tout le monde, ça a été vraiment fantastique. Mais voilà, et puis quand on a goûté à ce genre de projet, ben on a envie de continuer. C'est pas facile, parce que trouver l'équivalent de Bell aujourd'hui avec, on va dire, l'environnement économique qu'on connaît aujourd'hui, c'est pas simple. Donc on a beaucoup réfléchi avec mon équipe, et on s'est dit que finalement la chose la plus facile ou la moins difficile à avoir, c'est de contacter finalement les entreprises de notre région, là où on habite. Je pense que la proximité est sans doute la meilleure façon de continuer à raconter des histoires en faisant du bateau.
Quels sont les objectifs de ce projet pour vous ?
On s'est donné comme objectif numéro un pour cette année 2013 notre participation au Tour de France à la voile, qui est une belle épreuve, ça dure depuis presque 40 ans. Donc c'est une grosse organisation, donc des retours médias qui vont être de plus en plus importants sur cette épreuve. Et on sait qu'aujourd'hui, on a dans la région tous les talents nécessaires pour briller sur cette épreuve. Le constat qu'on a fait, c'est que pour avoir un seul sponsor qui va mettre beaucoup d'argent sur un projet voile, c'est compliqué. Parce qu'en ce moment, on n'est pas dans une tendance à investir beaucoup, surtout dans les projets de communication. L'idée, c'était de permettre à un maximum d'entreprises de pouvoir goûter à ces épreuves de voile, à ces émotions qui sont dégagées par les courses de bateaux. Donc pour ce faire, il fallait que le ticket d'entrée soit le plus faible possible.
Alors pour finir, vous avez d'autres projets. Quels sont-ils? Vous participez, j'imagine, au Vendée Globe 2016. Comment ça va se passer?
Ça, c'est des grandes questions. D'abord, il faut trouver des moyens. Hein. C'est toujours la même histoire. Hein. Pour faire des projets voile, il faut trouver des moyens parce que nos bateaux coûtent cher. Et les objectifs sont nombreux. Alors là, on est effectivement sur 2013, sur ce projet donc Made in Midi et Tour de France. Tour de France à la voile, qui est au mois de juillet. Donc c'est bien parce qu'autour de sur les côtes de France, il y a évidemment beaucoup de monde, hein, que ce soit en Manche, en Atlantique et en Méditerranée, il y a beaucoup de monde sur les ports, donc un public très nombreux. Mais il y a d'autres courses qui vont se passer plutôt en fin de saison, notamment en septembre avec la Med Race, qui est une course qui se passe entre Marseille et la Corse. Mais on ne va pas s'arrêter là. L'idée, c'est que si on arrive donc à valider ce concept Made in Midi, on sait qu'on va être capable d'amener ces entreprises donc du Midi sur d'autres épreuves peut-être plus médiatiques, comme la Route du Rhum l'année prochaine, le Vendée Globe effectivement dans 4 ans, ou la Barcelona World Race, qui est un tour du monde aussi équivalent au Vendée Globe, mais qui se passe en double, et ça c'est en 2015. Donc il y a énormément de projets derrière, mais on est à peu près sûr que si on arrive à réunir un budget suffisant cette année sur un Tour de France, on sera beaucoup plus facile de vendre, d'embarquer tous ces gens, toutes ces entreprises sur un projet Vendée Globe.
Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Quito?
Oh, il nous faut un peu de réussite, hein, voilà, parce que dans la vie, quoi qu'on fasse, il en faut. J'en ai pas eu beaucoup ces derniers temps, avec notamment le Vendée Globe. Donc il va falloir qu'on en ait un petit peu plus pour monter à bien, mener à bien ce joli projet.
Merci.
C'était Quito de Pavan au micro de Naïma Serf pour Radio Delta FM. L'huilerie coopérative de Clermont-l'Hérault a remporté 2 médailles d'or au Salon de l'agriculture à Paris cette semaine pour son huile d'olive et l'olive de bouche, la Luc. L'huilerie coopérative compte 3600 adhérents de toute la région avec une récolte 2012-2013 d'environ 900 tonnes d'olives. Entretien avec le président de la structure, Jean-Luc Casvieille, qui vise désormais le marché du luxe.
Nous, on se considère pas comme les huiles espagnoles, que je ne veux pas dénigrer, mais nous, on joue dans la cour du luxe, c'est-à-dire du champagne. Et c'est pour ça qu'on est très, très, très directif sur la qualité et qu'on contrôle de A à Z tous nos produits. C'est d'ailleurs la récompense qu'on vient d'avoir, c'est les médailles, c'est le travail de toute une année.
Alors pourquoi vous jouez la carte du luxe, comme vous dites, à l'huilerie coopérative de Clermont-l'Hérault?
Le problème, c'est un prix de revient, parce que sinon nos oléiculteurs ne pourraient pas vivre. Déjà que nos prix de vente sont assez bas par rapport aux revenus du producteur, donc il faut que l'on augmente nos prix justement pour pouvoir rémunérer comme il faut le producteur.
En l'occurrence, est-ce qu'on peut savoir combien vous vendez le litre et combien l'oléiculteur est-il payé?
Oui, il n'y a pas de secret. Hein. On vend environ entre 14 et 15 euros le litre à la vente en direct, hein, au magasin. Et notre producteur est rémunéré sur la base en vrac de 8 euros le litre. Mais il faut enlever à ces 8 euros les frais de trituration, qui représentent environ entre 2,50 euros et 3 euros suivant les rendements. Parce que chaque variété a des rendements très différents. Nous, on fait environ 8 à 10 variétés d'olives, mais ce sont des variétés régionales, vraiment même pas régionales, je dirais cantonales des fois, c'est vraiment du terroir. C'est pour ça qu'on mise sur ce produit-là, qu'on en retrouve nulle part ailleurs.
Et il y a un marché pour le litre d'huile d'olive à 14-15 euros ?
Oui, parce que les gens viennent chercher justement la qualité. Nous ici, on est une coopérative et je peux vous dire qu'on n'a que de l'huile d'olive de France et même de notre terroir. Il n'y a aucun mélange. Et on y tient justement parce que nos clients reviennent pour cette qualité-là.
Qui sont vos clients ?
Alors, ça va du Japon jusqu'au Canada, l'Angleterre, la Norvège pour l'exportation. Tous les revendeurs en France. Et puis après, on a de nombreux petits clients qui viennent... quoique il n'y a jamais de petits clients, mais des clients qui viennent au magasin prendre 2 ou 3 bouteilles d'huile qui sont de Paris, de Strasbourg ou d'Allemagne ou de Suisse, qui quand ils viennent en vacances viennent faire le plein d'huile d'olive.
80% de la production est vendue en France et 20% part à l'export. C'était Jean-Luc Cazevieille, président de l'huilerie coopérative de Clermont-l'Hérault, au micro d'Adrien Delgrange de Radio Pays d'Hérault.
Carnet de région.
Gard,
Aude,
Lozère,
Hérault,
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en langue de Croussillon.
C'est ainsi que se termine cette édition de Carnet de région. À partir de la semaine prochaine, et ce pour un mois, c'est l'équipe de Radio Alliance Plus à Nîmes qui vous proposera ses nouveaux magazines. Très bon week-end à toutes et à tous. À bientôt.
Carnet de région, l'actualité en langue de Croussillon.